Campus Bordeaux,
88.1.
Café sans sucre.
Il est midi 28 et tout de suite on écoute Justine qui nous raconte un peu les ficelles des mains visibles du marché.
Et oui, coca et cop, copains comme cochons, c'est le constat et le sujet de cette nouvelle chronique. Je vous avoue que les temps sont durs pour les cop, 27e et des dégâts sans mesure, 27e et pas d'intersectionnalité et des mesures. Parler d'environnement dans un pays liberticide et autoritaire, pas de souci. L'écologie politique, jamais entendu parler. Ça n'a pas de rapport, on le sait bien. Notez que l'écologie tient juste à replanter des arbres et remettre un peu de vert sur deux ou trois logos de compagnies aériennes. En tout cas, c'est visiblement ce que sont dits les organisateurs de la COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh cette année, au cœur d'une Égypte tenue par le général al-Sissi. Quel est donc le problème et pourquoi elle râle derrière son micro ? Se questionne la foule. Eh bien, elle râle, enfin je râle, d'un fait très simple, l'accueil de Coca en tant que sponsor principal de la COP27. Ça sent l'arnaque, hein. On ne sait pas exactement pourquoi, mais l'idée semble pas être celle du siècle. Parce que déjà, la COP, acronyme de la Conférence des Parties, est le plus grand rassemblement de dirigeants du monde sur la protection de l'environnement. Et donc, pour protéger l'environnement, ils décident d'un très très commun accord de tous prendre leur petite jet pour quelques jours en Égypte à boire du soda. Je caricature, évidemment, enfin presque. Alors que le GIEC sonne l'alarme et se jette au milieu des chemins publics pour faire entendre les résultats alarmants de ces très scientifiques calculs, alors que Valérie Masson-Delmotte s'acharne à former des hauts fonctionnaires absentéistes aux enjeux environnementaux, alors que la moitié des effectifs d'espèces de vertébrés a chuté de 69% en 50 ans, Coca arrive, comme une fleur en plastique, nous livrer un greenwashing sans honte aucune. Parce que oui, pour information, The Coca-Cola Company est le premier pollueur plastique au monde. Et oui, surprise, hein, les consommateurs ne puissent pas leur soda dans les rivières naturelles des Pyrénées. Peut-être que les organisateurs n'ont pas eu l'info, alors je la leur livre généreusement, parce que visiblement il fallait attendre. Le rapport de l'association Break From Plastic liste des plus gros pollueurs plastiques de 2021, dont en première place The Coca-Cola Company, suivi de PepsiCo et enfin Unilever. Mais Unilever, ça me disait quelque chose. Alors, j'ai fait une petite recherche et c'est en effet une firme néerlandaise qui était le sponsor de l'année dernière pour la COP26. Hein, au moins, on monte dans le prestigieux classement. Donc, détaillons un peu les activités écocidaires, on va pas mâcher nos mots, de la firme Coca-Cola, pour avoir une raison de râler. Parce que tenir la première place mondiale de pollueurs plastiques, mesdames et messieurs, implique une production de, ça y est, je sors les chiffres, 120 milliards de bouteilles jetables par an. Une main se lève dans le fond pour me dire « Oui, mais Justine, les bouteilles, moi je les mets dans le bac jaune, je suis irréprochable, j'ai eu 20 à mon bac, je sais faire mes créneaux, les yeux fermés, blablabla. » Alors, je conseillerais à ceux du fond d'ouvrir les yeux et surtout de comprendre que 41% de ces bouteilles ne sont en réalité pas recyclées du fait de leurs composants ou de défauts dans les chaînes de recyclage. Et donc, que ces bouteilles mettent entre 100 et 1000 ans à se dégrader. Cette pollution est vraiment vicieuse parce qu'elle est lente et fine. La pollution plastique des océans forme évidemment le désormais célèbre 7e continent, mais par sa dégradation, elle entraîne aussi la diffusion de microplastiques qui atterrissent dans le sang ou même dans le lait maternel, comme l'a récemment montré une étude italienne. Comme pour une bouteille de coca, on ne consomme pas que le soda, mais aussi le contenant avec des laits et à petite dose. Encore en 2016, une étude montrait que pour 480 milliards de bouteilles vendues, 100 milliards provenaient de la firme Coca-Cola. Et le plastique de coca, ça se produit aussi à partir d'énergie fossile. Énergie fossile impliquée dans le réchauffement du climat et la destruction d'écosystèmes, enjeu que cherche à combattre la COP27. Hein, le lien apparaît entre la COP et coca, mais pas forcément dans le bon sens. Avec un chiffre d'affaires estimé à 37 millions de dollars, coca pèse lourd et pas seulement dans les locaux du Père Noël. Parce qu'au-delà de cette pollution plastique monstrueuse, coca a aussi des problèmes avec le fisc américain. Bah quelle surprise, hein. Adepte des paradis fiscaux, elle aurait caché plus de 30 milliards de dollars au cœur des îles Caïmans en 2015. Bon, les États-Unis avaient déjà tapé du poing sur la table à la fin des années 2000 et effectué un redressement fiscal de 3 milliards de dollars, mais la vie continue hein, pour la firme. À partir du milieu du XXe siècle, The Coca-Cola Company suit le parcours classique de rachat massif et de multiplication d'actionnaires puissants. Et justement, bah, moi ça m'intéresse beaucoup les actionnaires, et pour Coca, c'est ici assez pertinent de les connaître. Parce qu'on retrouve parmi les actionnaires majeurs de la firme, Berkshire Hathaway, The Vanguard Group, mais aussi et surtout, mon préféré, BlackRock. Alors, BlackRock, c'est quoi ? C'est un fonds d'investissement ultra puissant, tout comme The Vanguard Group. Pour faire très vite, c'est des firmes qui gèrent les actifs. Ça peut être des fonds de particuliers extrêmement riches, mais c'est le plus souvent des entreprises, des fonds de retraite ou même des banques, pour les placer et les faire fructifier. Donc du gros sou et du gros sou. Pas surprenant que les premiers investisseurs de Coca soient de telles entreprises, et loin de moi l'idée de jeter la pierre à la firme. Coca suit un modèle tout à fait classique de financement au cœur du capitalisme financiarisé, et elle est loin d'être la seule à compter BlackRock ou The Vanguard Group dans ses actionnaires. Notez qu'à côté de Coca, BlackRock est aussi le premier investisseur des projets d'extraction d'énergie fossile. Pour rappel, et pour aussi le marteler, les énergies fossiles constituent le premier cheval de bataille pour à peu près gérer, hein, ce qu'on ne fait pas pour l'instant, le réchauffement climatique. Alors non, Coca n'est pas proportionnellement plus responsable de ses actionnaires que d'autres firmes, comme Total, oui je sais, ça tourne un peu à l'obsession, qui compte aussi BlackRock dans sa liste d'actionnaires. Mais reste-t-il que la firme de soda a été choisie pour sponsoriser une COP, alors que l'enjeu climatique est plus qu'urgent, et ce malgré des liens pour le moins critiquables. Bon, alors, on pourrait arguer que je tire des conclusions d'implications très indirectes, des actionnaires, après tout, ça peut être lointain, mais en voilà d'autres, des implications directes de Coca dans la destruction environnementale. Oui, la liste est longue et pourtant non exhaustive. Dès 2006, des journalistes du média The Guardian, comme Nick Mathiasson, alertent sur la sécheresse provoquée par l'installation d'usines Coca-Cola en Inde. Dans la région du Rajasthan, les fermiers se retrouvaient empêchés d'irriguer leurs terres. Nick Mathiasson rapporte aussi la contamination de sources d'eau locales dans l'état indien du Kerala, aussi liée à l'installation d'une usine Coca-Cola. On en est là, des externalités négatives non assumées par l'entreprise. Alors, réaction de la firme astucieuse sponsorisée le Forum mondial de l'eau de Mexico la même année, donc en 2006. Coca les enchaîne, ces forums. Certains crient au lobby, la firme répond engagement. Il est vrai que la confiance peut être réaffirmée après la publication de l'étude de l'American Journal of Preventive Medicine, révélant le lobbying ultra intense de financement d'organisations de santé par Coca et de manœuvres de mise sous silence des résultats de recherche sur les dangers de consommation de ces sodas. La confiance règne, ça c'est sûr. Que peut-on attendre d'une COP sponsorisée par Coca ? Que peut-on attendre tout court de COP qui n'hésite pas à s'associer à des FMN écocidaires à chaque édition ? La triste réponse semble être pas grand-chose. J'ai pris aujourd'hui Coca pour exemple. Il est en effet flagrant. Mais n'oublions pas aussi la présence en masse de lobbyistes des énergies fossiles à Sharm el-Sheikh. N'oublions pas les autres sponsors carrément douteux comme Microsoft, Siemens, la compagnie aérienne Egyptair ou encore General Motors. N'oublions pas les intentions elles aussi douteuses de dirigeants autoritaires. N'oublions pas les échecs passés et le manque de mesures contraignantes et effectives. Les COP n'ont pas sauvé la planète et nous pouvons douter qu'elles ne le fassent un jour. Si elles ne réalisent pas la profonde problématique d'un système favorisant des FMN toute puissante s'accaparant des ressources précieuses, si elles soutiennent même ce système mortifère, doutons alors de leur engagement sincère et peut-être même de la pertinence de leur existence. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux bouteilles plastiques dans l'océan, même les baleines peuvent boire du coca.
Campus Bordeaux.
Et merci beaucoup Justine de nous avoir un peu expliqué hein, les ficelles de Coca-Cola. Coca-Cola qui sponsorise la COP27. Moi, je pensais que c'était une blague au début. Je ne me suis pas du tout tenue au courant des infos dernièrement parce qu'elles sont déprimantes, tout simplement, et totalement hallucinantes. Et ça me fait toujours penser au Mexique, hein, puisque Coca-Cola aussi a un grand impact sur le Mexique, où le Mexique manque d'eau potable, mais pas de coca. Mm-mm. Et je me souviens toujours de ce reportage que j'avais vu, je crois, sur LCP, sur la chaîne parlementaire. Ça remonte, hein, ce petit reportage qui ressort de temps en temps, qui est affolant, qu'on voit que ben, en fait, la population a beaucoup plus facilement accès au coca. Mm. Et du coup, elles ont tous les problèmes qui s'en suivent, tels que l'obésité, le diabète. C'est vrai que c'est assez affolant. Est-ce que t'aimes le coca, Justine ?
Alors, moi, j'ai la chance de ne pas être trop soda, donc j'évite ce genre... ça peut être une addiction, pas toujours, mais je ne suis pas très soda, donc c'est facile aussi de taper dessus. Et l'intérêt, ce n'est pas forcément de taper sur les consommateurs. Quand j'ai des potes qui boivent du coca, je ne vais pas aller les pointer du doigt. L'intérêt, c'est de voir aussi les implications, et ben, on favorise certains dirigeants et certains systèmes. Favorise aussi la montée en puissance de coca et aussi bah, tout le système autour d'investissement favorise sa montée en puissance. Et quand on voit que derrière, il y a des investisseurs comme BlackRock, comme Vanguard Group, qui sont considérés comme aussi puissants que des États, ça aussi, pose aussi question sur la protection qu'on peut avoir de l'intérêt public.
Ouais, ce qui est intéressant, hein, c'est pas forcément de faire un focus sur la responsabilité individuelle, hein, qui est très moindre, mais de voir un peu l'efficiel du système. Mmh. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, moi, j'emploie le terme de cette culpabilisation du citoyen. En ce moment, on parle de plus en plus d'écologie, notamment sur les chaînes d'information en continu. Là, il parle de faire une espèce de passeport carbone pour voir où on en est au niveau des émissions de gaz, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça ?
Alors, c'est très ambivalent parce qu'on est quand même dans un pays... on fait partie des plus gros pollueurs et il ne faut pas qu'on se le cache. Et nos modes de consommation ne sont pas du tout durables. Et il faut qu'on change drastiquement certains points. Mais... aussi, quand on pointe le consommateur, généralement, on ne pointe pas le consommateur le plus riche, on pointe aussi le consommateur de tous les jours. Et ce n'est pas forcément ces personnes qui devraient culpabiliser. C'est aussi un système qui encourage cette forme de consommation. Et quand on gagne un SMIC ou moins, on ne peut pas se permettre d'aller au petit marché bio, on ne peut pas se permettre de ne pas prendre la voiture, par exemple, pour aller au travail. Et donc, il faut aussi réfléchir à ça. Et clairement, fin du monde, fin du mois, ce n'était pas une blague. Et c'est vraiment une question qu'il faut traiter en parallèle. Après, sur ces questions-là, moi ça me rappelle la question de l'éco-anxiété. On parle beaucoup de ça et cette culpabilisation, elle s'accompagne aussi d'un déni et d'une peur. Et en fait, la peur, ça réindividualise aussi le problème. Et c'est pas forcément une peur individuelle qu'il faut avoir, pas juste une peur de la destruction de notre maison, même si elle est complètement compréhensible, mais plus une colère est vraiment, qui pourrait pousser à l'engagement, une colère ou toute autre émotion qui peut pousser à l'engagement. Et donc essayer de sortir de quelque chose d'assez paralysant aussi, qui arrange très très bien certaines entreprises, hein, et Total se fait vraiment, je sais que je martèle pas mal, mais c'est vraiment leur stratégie aussi de faire peur parfois et d'inquiéter et d'empêcher la parole et l'organisation citoyenne. Donc faut peut-être réfléchir en dehors juste de l'individu et l'échange et l'échange en groupe autour de débats sur certaines questions. Et faut favoriser le débat public. Il y a vraiment plein d'initiatives, même à Bordeaux, pour ça, et qui peuvent un peu sortir juste de la paralysie sur ces sujets-là, qui sont vraiment vraiment cool.
Et l'éco-anxiété, hein, c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent. Est-ce que c'est une réalité pour toi ? Est-ce que, par exemple, toi, t'es jeune, donc t'es entouré de jeunes. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui ?
Je pense... c'est assez ambivalent. Évidemment, il y a de l'éco-anxiété. Et évidemment, c'est même un sujet que certains psys prennent très, très, très à cœur. Mais... en même temps, comme je le disais, l'éco-anxiété, ça peut être vraiment instrumentalisé pour réindividualiser la question, la problématique climatique. Et je pense pas que ce soit l'éco-anxiété, disons, se propage, ça va pas forcément solutionner tous nos problèmes. Et faut peut-être la dépasser, cette éco-anxiété. Et je dis pas que c'est facile, hein. Moi, j'avoue, je me renseigne beaucoup sur le sujet, en tout cas sur toutes les problématiques environnementales, et c'est plus déprimant. Après, je pense qu'au bout d'un moment, on comprend et on prend une certaine distance face à ces sujets-là en termes émotionnels. Et après, c'est plus l'engagement et quelque chose de très pragmatique qui arrive. Et en soi, quand on se renseigne, on voit que les solutions, elles existent. Et c'est encore plus rageant de voir qu'elles existent et qu'on ne les applique pas.